Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours MVA consacré aujourd'hui aux applications universelles. Les applications universelles, c'est la nouvelle fonctionnalité, la nouveauté qui a été annoncée à la Build en avril 2014. Et pour en parler aujourd'hui, on accueille Jonathan de la société InfiniSquare.
Bonjour à tous.
Salut Jonathan. Alors, pour commencer aujourd'hui, finalement, qu'est-ce que c'est une application universelle ?
Bonne question. Qu'est-ce que c'est qu'une application universelle ? Une application universelle, c'est assez simple pour résumer, c'est une application qui va être capable de tourner sur tous les form factors. Donc quand je parle de form factor, ça veut dire que cette application va être capable de tourner sur un PC classique, sur une tablette, mais aussi sur un téléphone et même sur une Xbox. Donc c'est quelque chose d'assez magique, on prend une application, elle tourne sur toutes les form factors.
Mais ça existe déjà finalement, c'est un site web.
Oui, on pourrait penser que c'est un site web, mais là, la différence d'un site web, c'est qu'on va être sur des applications qui sont complètement natives. Donc au lieu d'essayer d'avoir une expérience un peu dégradée, qui est capable de s'adapter à tous les navigateurs, etc., on va avoir une application qui va être vraiment adaptée au périphérique sur lequel elle va fonctionner. Elle va pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités natives, donc si elle a besoin d'accéder à la caméra, d'accéder à la puce d'envoi de SMS ou au GPS, etc., elle va être capable d'y accéder directement, nativement. Et puis d'un point de vue ergonomie, on va pouvoir avoir quelque chose de vraiment adapté à ce que veut l'utilisateur, quelque chose qui prend vraiment tout le potentiel de la plateforme sur laquelle ça s'exécute. Donc c'est quelque chose de complètement différent d'un site web en réalité.
D'accord, ça c'est super. Et c'est possible sur Xbox aussi ?
Oui, c'est possible sur Xbox. Il y a une démo qui a été faite justement à la Build où on voit une application qui tourne à la fois sur une Xbox, à la fois sur un PC, à la fois sur un téléphone, et tout ça sur la même base de code en commun.
D'accord. Mais alors dis-moi, on ne pouvait pas déjà le faire avec les PCL ou les fichiers liés, historiquement ?
C'est une bonne remarque. Jusqu'à présent, on pouvait utiliser les PCL ou des fichiers liés. Alors les PCL, ça allait nous garantir qu'on avait un code qui avait la même signature. On allait limiter en fait le code accessible sur juste les plateformes qu'on va cibler. Et puis, on avait la même signature de respecter. Bon là, la problématique qu'on pouvait avoir avec ça, c'est que même si la signature était la même, même si le nom de la méthode était la même, on n'était pas garanti que le comportement était vraiment identique sur toutes les plateformes. Donc on se retrouvait avec des bugs qui apparaissaient au moment de l'exécution. On se rendait compte que finalement, ça ne faisait pas ce qu'on voulait. Donc ça, c'était bien, mais avec ses limitations. Et puis, surtout, on se limitait au code. C'était la même chose avec les fichiers liés. Ça permet facilement de prendre un fichier et puis de dire bah, je vais l'utiliser à la fois dans ce projet Windows Phone et à la fois dans ce projet Windows. Mais donc ça permettait surtout de partager de la logique en fait. Donc quand on part surtout sur un partenaire MVVM, on allait avoir toute la logique métier de l'application qui était partagée entre les différentes applications. Puis si on avait besoin de quelque chose d'un peu particulier, il y avait des solutions d'utiliser des symboles de compilation, etc. pour faire des switches sur le bon contexte. Ça, c'était pas mal, mais la limitation qu'on avait, c'était qu'on pouvait partager que du code. Donc en général, ça va représenter 40, 50, peut-être jusqu'à 70% du code. Mais tout le reste, c'était tout ce qui est vu, les fichiers de traduction, les images, etc. Tout ça, c'était quelque chose à réimplémenter sur chacune des plateformes. Donc c'est quelque chose d'assez fastidieux en réalité, puis beaucoup de travail. Donc là, avec les apps universelles, on part sur quelque chose de complètement différent où on va pouvoir partager tout. Tout se partage, les ressources. Donc tout ce qui est traduction, on n'a plus qu'une seule fois à les faire. Tout ce qui est fichier XAML ou HTML qui va définir les vues, ça va s'adapter automatiquement en fonction de la plateforme. Nous, on n'a rien à faire de spécifique. Tout le code va être partagé. Et puis, on est sûr que vraiment, c'est la même plateforme. Donc ce qui va fonctionner sur une plateforme d'une façon, va fonctionner de la même façon sur une autre plateforme. Donc ça, c'est quelque chose d'assez génial d'un point de vue développeur. Ça nous fait gagner un temps fou.
Alors ça, c'est possible sur n'importe quel langage ?
Oui, alors c'est basé sur ce qu'on pouvait faire en Windows 8 ou Windows 8.1.
D'accord.
On a la complète latitude sur le langage qu'on veut utiliser. Donc on peut partir sur un développement C Sharp, faire l'affichage en HTML parce que le contenu est HTML et qu'on va pouvoir l'adapter facilement. Puis aussi on peut partir sur des parties qui sont en C++, qui vont être utilisables depuis JavaScript ou depuis le C Sharp. Et puis on peut choisir aussi de faire complètement un jeu vidéo en DirectX traditionnel C++. D'accord. Pour faire quelque chose qui est vraiment en voie de la patate. Donc là, on a le choix, vraiment, on n'a pas de limitation de ce côté-là. On choisit ce dont on a l'habitude.
D'accord. Bon, il n'y a plus qu'à. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour écrire du code aujourd'hui ? De quoi on a besoin ?
Eh bien, on a besoin d'un produit qui s'appelle Visual Studio 2013, Update 2, Release Candidate. Donc c'est quelque chose, on en a plein la bouche quand on le prononce.
C'est un nom un peu compliqué, mais voilà. C'est vachement bien.
Voilà, c'est vachement bien comme outil. C'est Visual Studio 2013 classique, mais avec beaucoup d'améliorations et notamment la possibilité de partir sur un développement d'Universal App. Alors pour le trouver, on va aller sur MSDN, c'est gratuit, et puis il suffit de le télécharger et de se lancer au développement.
D'accord, donc au final, on n'a pas besoin de grand-chose de plus que d'habitude.
Voilà. Alors, les autres requirements nécessaires, ça va être Windows 8.1. Et puis, si on veut utiliser l'émulateur de Windows Phone, on va partir sur un PC qui a SLAT d'activer.
D'accord.
Alors, je ne vous expliquerai pas exactement ce que c'est, mais ça permet d'activer des fonctionnalités au niveau machine virtuelle pour émuler un Windows Phone. Donc, en réalité, ça paraît compliqué, mais c'est exactement ce dont on avait déjà besoin pour faire du développement Windows Phone ou Windows 8 à l'heure actuelle. Donc, il n'y a rien de vraiment nouveau de ce côté-là.
Bon, on sait de quoi on a besoin, il n'y a plus qu'à commencer. On commence une première application, qu'est-ce qu'il faut faire?
Voilà, alors pour faire son application, on va partir sur trois grandes étapes. La première chose, c'est de choisir le bon template de projet. Ça, c'est quelque chose qu'on fait toujours lorsqu'on commence une application. Il y a plusieurs templates qui sont proposés par Visual Studio, c'est toujours la même chose. On choisit son langage et puis on choisit le template et c'est parti, on va commencer à avoir son projet qui est créé par Visual Studio. Alors, Universal App, on va regarder un petit peu tout à l'heure pendant la démo, mais c'est quelque chose qui a une structure un petit peu différente de fichiers, donc il va falloir bien maîtriser cette structure pour savoir ce qui se passe exactement. Puis une fois qu'on a fait ça, ce qui est assez rapide, eh ben, il ne nous reste plus qu'à coder. Et ça, c'est la partie fun.
Donc et finalement, ça ressemble beaucoup à ce qu'on connaît déjà.
Voilà, il n'y a rien de nouveau, de spécifique à une app universelle, c'est du développement avec la plateforme Microsoft, tout ce qui est plus classique.
Comme d'habitude. C'est parti pour la démo?
Voilà, c'est parti. Donc là, je viens de lancer Visual Studio 2013, l'update RC2. Et j'ai un environnement de développement, tout ce qui est le plus classique. Donc je clique sur un nouveau projet. Et puis là, j'ai le wizard qui va me proposer tous les templates à ma disposition. Donc là, moi, par défaut, mon Visual Studio est configuré pour du C#, mais je vais pouvoir avoir les autres langages disponibles. Si je déplie un petit peu les templates de projet, je vois que j'ai un nouveau drop-down qui apparaît, qui est Store Apps pour les applications du store.
D'accord.
Donc dedans, j'ai encore des sous-catégories. J'en ai une pour faire des applications Windows traditionnelles, on va dire. J'en ai une pour faire des applications Windows Phone traditionnelles. Et puis, j'ai aussi un onglet qui va être Universal App, qui va tout de suite partir sur de l'application universelle. Dedans, j'ai, là, on peut le voir, quatre templates de projet pour du C#. Je peux faire une application blanche, vide, avec juste le minimum pour commencer le développement. Je peux faire une application Hub, donc c'est un template qui utilise le contrôle Hub qui est de Windows 8.1 et qui va me faire le pendant pour Windows Phone en même temps. Donc il va utiliser un panorama ou un pivot. Et
d'accord.
Puis aussi, je peux faire une librairie de classe, Universal App, donc qui va targeter à la fois Windows Phone et à la fois Windows dans le cadre des apps universelles. Et puis je peux aussi faire un composant Windows Runtime. Si je veux pouvoir partager du code C# avec du code C++ ou avec du code JavaScript.
Par exemple.
Donc voilà pour le C#. Et puis si je déplie autre langage, je vois que j'ai la même chose qui a été créée pour les applications en C++ avec le même type de template. J'ai juste pour du C++ la possibilité de partir sur du développement DirectX, mais j'ai rien de vraiment spécifique à ce langage. Comme on l'a dit tout à l'heure, on choisit le langage qui nous va le mieux. Et puis, j'ai aussi la même chose pour du JavaScript, parce qu'on peut partir sur développement JavaScript, même pour des apps Windows Phone, etc. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est partir sur du C#, et on va créer sa première application universelle, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, je prends le template hub d'app universelle, je lui donne un nom, hub app universal MVA, je clique sur OK, et là, Visual Studio fait le plus gros du travail pour moi. Il me demande de patienter un petit peu, ce que je fais gentiment. Et puis, je me retrouve avec un environnement de développement, tout ce qui est de plus classique. Vous voyez que le template m'ouvre automatiquement un fichier qui va correspondre à mon application. Le template a le bon goût d'être bien commenté pour bien comprendre comment fonctionne chaque partie. Donc, je vous invite à le regarder en détail puisque c'est vraiment bien commenté. Ça vous permet vraiment de comprendre comment va fonctionner votre application. Et puis après, si je regarde dans le Solution Explorer, ce que je peux voir, c'est que j'ai trois projets qui ont été créés. Donc j'ai le premier qui va correspondre à mon application Windows. On voit qu'entre parenthèses, la plateforme est maintenant indiquée. Donc là, j'ai Windows 8.1. J'ai un autre projet qui va correspondre à ma version Windows Phone. Pareil, Windows Phone 8.1. Et puis j'ai un nouveau dossier qui apparaît, qui s'appelle upxml.shared. Donc là, c'est la nouveauté sur des apps universelles. Dans ce dossier, on va pouvoir retrouver tout ce qui est partagé entre mes différentes applications. Donc là, je regarde en détail, il n'y a pas grand-chose. Il y a mes assets qui vont correspondre à mes images partagées, quelques classes d'helpers, un modèle de données qui est commun à toutes mes applications. Mmh. Et puis, dans Strings, j'ai toutes les ressources de traduction. Hop. Si je regarde dans app.xaml, ce que je peux me rendre compte, c'est que c'est un fichier app.xaml, tout ce qu'il y a de plus classique, qu'on aurait pu retrouver sur du Windows 8.1 ou même sur du Windows Phone 8.0. Le app.xaml.cs, c'est celui qu'on avait ouvert juste avant. C'est un fichier classique de lancement d'application Windows 8.1. Donc, de ce côté-là, j'ai rien de nouveau à apprendre. C'est quelque chose que je connais déjà, en réalité. Mm-hmm. Ce que je vois, c'est qu'il est juste dans ce dossier shared. Et si je vais dans chacune des applications, je vois qu'il n'y a pas d'application en tant que telle. En fait, ce qui se passe, c'est que magiquement, ce fichier, il va se retrouver dans chacun des deux autres projets. Donc, quand j'ai un projet universal, tout ce que je mets dans shared, il va se retrouver automatiquement dans les deux autres projets. Et c'est valable pour tous les fichiers. Donc là, j'ai ma structure de dossier asset qui contient trois images. En réalité, je peux considérer mentalement qu'elles sont déjà présentes dans les autres dossiers. Si je prenais une image et que je la rajoutais, automatiquement, il allait les rajouter au bon endroit dans les deux autres projets. Là, ce que je peux voir, c'est que dans le template par défaut, j'ai en réalité pas énormément de code commun. J'ai le fichier applicatif et puis toutes mes pages, elles vont avoir une implémentation différente pour avoir un rendu différent. Donc là, si je lance mon projet, je vais débugger sur ma machine locale. Donc là, j'ai le drop-down de debug classique. Ce que je peux voir aussi, c'est que là, maintenant, il y a un choix. Je peux choisir entre quel projet je vais vouloir démarrer. Donc là, je suis par défaut sur Windows, mais j'aurais pu partir sur du Windows Phone. Donc là, je lance sur ma machine en local. Automatiquement, ça compile, ça déploie, tout ce qu'il y a de plus classique. Et là, j'ai mon application qui fonctionne. Donc là, j'ai un hub. Windows 8.1 avec lequel je peux interagir, je peux aller sur le détail d'un élément, je peux aller sur le détail d'une section pour avoir son détail. Mm-hmm. Ça, c'est une application Windows classique. Et ce que je peux voir, c'est que si je fais la même chose mais pour du Windows Phone 8.1, en mettant le projet de démarrage Windows Phone 8.1, c'est parti, il va me proposer de choisir de déployer mon application soit sur un device ou soit sur un des nombreux émulateurs qui existent pour Windows 8.1. Donc il y a des nouveaux résolutions qui sont apparues et des nouveaux formats. Mm-hmm. Donc on va pouvoir choisir ce qu'on veut. Là, je vais partir sur du WGA classique et je lance mon debug. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'automatiquement, il me lance mon émulateur. C'est un nouvel émulateur pour Windows Phone, mais qui est commun à tout le développement Windows Phone. Il me le démarre. Il m'ouvre mon Windows Phone, il déploie mon application et j'ai mon application, la même, qui tournait à l'instant sur Windows 8, qui fonctionne sur mon Windows Phone. Donc on a pu voir vous pouvez remarquer que les données sont exactement les mêmes, sauf qu'au lieu d'avoir un hub, j'ai un panorama pour m'afficher les mêmes informations. Je vois que je peux naviguer dans chacun des éléments, j'ai la même chose, j'ai un comportement spécifique parce que j'ai plus besoin de bouton back. Je vais pouvoir cliquer sur le détail d'une section pour avoir les éléments à l'intérieur. Je peux voir que j'ai vraiment les mêmes informations qui sont affichées. Alors pour vous montrer que je ne suis pas en train de mentir, ce que je vais faire, c'est que là, on voit qu'il y a des petites images pour chacun des éléments. Et ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de mettre du gris qui est un peu terne, je vais partir sur du rose. Ceux qui me connaissent savent que c'est ma couleur préférée. Hop, et je vais juste changer une des images. C'est parti, je l'enregistre. Hop, donc là j'ai édité mon image qui est dans mon projet shared. Si je passe ma souris dessus, je vois bien qu'elle est passée en rose. Je redéploie sur mon émulateur. Donc là ça va plus vite parce qu'il était déjà lancé. Hop, et quand je vois mes éléments à l'intérieur, ce que je remarque c'est qu'il y a bien des tuiles qui sont bien apparues roses. Donc l'application est tout de suite plus jolie. Donc mon code est bien partagé. Donc maintenant qu'on a vu que les bases fonctionnaient bien, on va regarder un petit peu les nouveautés au niveau de l'émulateur. Et au niveau de la surface de dessin et de l'éditeur de code. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est par exemple, c'est aller dans mon fichier qui est dans le shared, l'ouvrir. Et puis ce que je peux voir, c'est qu'à certains endroits, j'ai des symboles de précompilation. Donc là, j'en ai un nouveau que je ne connaissais pas, qui s'appelle Windows Phone App. Celui-là, ça permet de dire, je veux faire cette partie que sur du Windows Phone. Et puis, je peux faire la même chose pour du Windows. J'ai une variable de précompilation qui est quelque part dans ce fichier, qui s'appelle Windows Apps. Donc ça, c'est du code classique, il n'y a rien de spécialement nouveau, c'est juste que les noms des symboles ont changé. Mmh. Et là, quand on utilisait la fonctionnalité de fichier lié dont on a parlé tout à l'heure, c'était assez fastidieux de développer puisque souvent, Visual Studio se perdait dans quel fichier il est ouvert, dans quelle plateforme. Donc on avait souvent des problématiques à ce niveau. Là, il y a un nouveau menu qui est apparu, qui est le switcher de contexte, qui apparaît à côté en haut de la barre de navigation dans l'éditeur. Et si je clique dessus, ce que je peux voir, c'est que j'ai le choix de la plateforme que je veux cibler. Donc pour le même fichier, je peux cibler deux plateformes, parce que comme il est partagé sur chaque plateforme, je peux cibler plusieurs plateformes. Donc là, j'ai le choix entre Windows et Windows Phone. Donc il m'a trouvé automatiquement les projets de ma solution. Et si je passe sur du Windows Phone, je vois que mon code là, qui était disponible que pour des Windows Phone, devient visible et qui va compiler, que je peux le formater, j'ai l'intelligence qui fonctionne. Et si je repasse en Windows, hop, ce code devient grisé puisqu'il n'est plus actif. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment génial au niveau du code. Et on verra plus tard, si je prends, je vais créer une nouvelle vue pour vous montrer qu'il y a exactement la même chose qui est apparue au niveau de l'éditeur XAML. Donc je vais créer une page blanche. Hop, je l'ajoute à mon projet shared. Hop là, voilà, c'est très rapide. Hop, elle est là. Donc là, j'ai ma page blanche. C'est du code XAML classique, vous remarquez. Ce que je peux voir, c'est que pareil, j'ai le switcher de contexte qui est là. Donc je choisis ma page XAML, je l'affiche en Windows Phone ou en Windows. Et si j'affiche l'éditeur de code, là je vois que je suis en Windows et j'ai bien le Chrome d'une application Windows, le format, etc. Je peux aller dans les devices, changer les spécificités de ma tablette pour voir les différentes résolutions. Puis si je passe en Windows Phone, hop, je vois que mon éditeur se met à jour et il affiche un émulateur Windows Phone et une surface de dessin Windows Phone. Donc voilà pour les spécificités d'une application universelle. On a vu les bases, on voit que c'est un template relativement classique. Mmh. Si on sait faire du développement Windows Phone, on saura faire, ou Windows, on saura faire une application universelle. Donc voilà.
Très impressionnant. Finalement, en synthèse, qu'est-ce qu'il faut retenir voilà, des principaux points des applications universelles et de la façon de les créer?
Bonne question. Ce qu'on va retenir, surtout ce qui est nouveau, ça va être le dossier shared qui permet de partager entre Windows et Windows Phone ou d'autres plateformes supportées. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, assez déroutant au premier abord. On a le switcher de contexte qui est vraiment très utile pour développement. Ça nous fait gagner un temps fou en productivité, etc. Et puis les symboles de compilation qui sont nouveaux, qui permettent de switcher si on veut faire du code spécifique à une plateforme ou l'autre.
Eh ben, merci à toi, Jonathan, pour toutes ces explications sur les applications universelles. Dans un prochain module, on va s'intéresser à la migration des applications existantes vers les applications universelles. Merci à tous.